Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Conflit au Soudan du Sud, le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé ce mardi ce qu'il qualifie de graves violations des droits de l'homme commises principalement par les forces gouvernemental. Selon les enquêtes conduites par l'ONU, dont les résultats sont publiés dans le rapport aujourd'hui, entre le 16 avril et le 24 mai, au moins 232 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans des attaques menées par les forces gouvernementales, leurs alliés et des groupes de jeunes armés dans des villages de zones contrôlées par l'opposition, notamment à Magnendit et Léer. Les violences sexuelles ont également été utilisées comme armes de guerre, souligne le document en précisant qu'au moins 120 femmes et jeunes filles ont été victimes de viols individuels ou collectifs. Le rapport fait aussi état d'attaques des forces de l'opposition qui ont fait des victimes civiles. Au Cameroun, où la prochaine élection présidentielle aura lieu le 7 octobre, nouveaux échanges de tirs ce mardi à Boya, le chef-lieu de la province anglophone du Sud-Ouest. La ville avait déjà été le théâtre de violents affrontements hier entre les forces de sécurité camerounaises et des séparatistes anglophones armés qui ont coûté la vie à au moins deux policiers, alors que Yaoundé annonçait la publication du décret présidentiel spécifiant la date du scrutin. Plus de détails avec Irénée Hermon Ungbo.
C'est en restant terrés dans leur maison que les habitants de Boya ont suivi à la télévision publique la lecture du décret. Les quelques 100 000 habitants de cette ville ont eu peur de sortir après les échanges de tirs nourris dans la matinée entre des soldats et des hommes armés non identifiés, mais présentés comme des séparatistes. Le président Paul Biya au pouvoir depuis bientôt 36 ans n'a pas annoncé s'il serait candidat à un septième mandat, mais il est présenté par son parti comme un candidat naturel. Les opposants dont Joshua aussi qualifient son bilan de chaotique. Monsieur aussi a été investi en février candidat du principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, anglophone. Cet homme d'affaires de 49 ans tentera de briguer la présidence, comme l'avait fait lors de scrutins précédents Nick John Frundi, leader du SDF et opposant historique à Paul Biya, mais qui a cette fois-ci décidé de céder la place aux jeunes de son parti.
RDC, Kinshasa fait machine arrière sur une éventuelle visite du secrétaire général de l'ONU et du patron de la Commission de l'Union africaine dans le pays. Le principe de cette visite est maintenu après harmonisation des agendas, annonce aujourd'hui un communiqué du ministère congolais des Affaires étrangères. Les deux illustres personnalités restent les bienvenus à Kinshasa à une date à convenir de commun accord, souligne le gouvernement congolais. Kinshasa avait indiqué hier que cette visite était inopportune pendant cette période préélectorale. Or, Leila Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres à Kinshasa, et aussi chef de la mission de l'ONU à RDC, avait confirmé la visite à la fin du mois de mai, en estimant qu'elle devait avoir lieu au courant du mois de juillet. En Guinée, poursuite de la grève préconisée par la CNTG et l'USTG, deux confédérations syndicales, l'arrêt de travail pour protester contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe a paralysé la capitale Conakry hier et il y a eu plusieurs accrochages entre manifestants et forces de l'ordre. Lundi, Bagasikora.
Le mouvement a été déclenché pour une journée le 4 juillet par la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, et reconduit pour 72 heures. Aucun véhicule de transport en commun n'a quitté les gares routières de la capitale et les taxis collectifs urbains n'étaient pas visibles. Les syndicats des transporteurs ont posté des jeunes sur les grands axes, notamment le boulevard Le Prince et l'autoroute Fidel Castro, pour imposer le blocage de la circulation. Au moins un taxi a été incendié par des jeunes manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre à Kisoso, dans la banlieue sud de Conakry, à coups de pierre. Les forces de l'ordre, munies de matraques, ont riposté en tirant des grenades lacrymogènes sans parvenir à éloigner les manifestants. Le maintien du carburant au prix antérieur de 8000 francs guinéens contraint le gouvernement depuis octobre 2017 à consentir des subventions de plus en plus fortes sous forme de renonciation partielle à ses droits et taxes, soit environ 736 milliards de francs guinéens, près de 70 millions d'euros, a indiqué le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly.
L'insécurité aggrave la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest, notamment dans plusieurs pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui regroupe le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. C'est ce qu'ont affirmé lundi à Niamey au Niger les ministres de l'Agriculture de cet espace de 112 millions d'habitants. Le communiqué publié à l'issue de la réunion note que les ministres sont particulièrement préoccupés par l'insuffisance de la production alimentaire, aggravée par l'insécurité persistante dans le bassin du lac Tchad, le centre du Mali, et le Liptako-Gourma, qui est une région à cheval sur le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Corne de l'Afrique, l'Éthiopie et l'Érythrée enterrent la hache de guerre après des années de tensions militaires et diplomatiques. Et les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques justement. Une décrispation qui pourrait avoir des retombées pour les deux pays. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Oui, c'était le changement de premier ministre en Éthiopie. Monsieur Ahmed est venu et il a vu que c'était ridicule de ne pas parler avec Érythrée. Ils avaient une longue frontière, avaient des soldats sur la frontière qui coûtaient très cher. Il y avait une guerre froide. L'Éthiopie n'utilisait pas les ports d'Érythrée, donc ils étaient obligés d'utiliser Djibouti, qui était très, très loin. Donc lui, M. Ahmed a dit, c'est ridicule de continuer comme ça. Il faut normaliser les relations. C'est gagnant-gagnant.
Qu'est-ce que l'Érythrée gagne dans tout ça?
D'abord, ils sont plus obligés d'avoir des milliers et des milliers de soldats sur la frontière. Ils peuvent utiliser ces hommes pour des autres choses, pour l'industrie, pour l'agriculture, etc. Deuxième, il n'y avait plus de commerce pendant 20 ans. Chaque côté perdre beaucoup d'argent. Maintenant, on peut recommencer le commerce. Et aussi, ils avaient des mauvaises relations avec les États-Unis à cause de ça. Les États-Unis ont besoin d'Érythrée parce qu'ils sont sur la mer Rouge, en face de Yémen et tout ça. Donc, c'est très important pour que l'Amérique normalise aussi avec Érythrée.
Et l'Éthiopie va gagner quoi?
L'Éthiopie, c'est la même chose. Ils peuvent retirer les soldats sur la frontière. Ils peuvent recommencer le commerce. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent avec l'absence de commerce. Et aussi, ils peuvent travailler ensemble avec Érythrée contre les islamistes, contre Al-Shabaab en Somalie. Tous les deux sont très contre l'islam révolutionnaire, tout ça. Ils peuvent travailler ensemble.
Et la ville de Badme, qui était un contentieux réglé par les accords d'Alger, mais les soldats éthiopiens sont toujours présents là-bas, hein, même si l'Éthiopie envisage rendre Badme à Asmara.
Oui, l'Éthiopie a accepté l'arbitrage qui était fait sur la frontière en Algérie. Et c'est-à-dire Badme appartient à Érythrée. Donc, ils ont dit, nous acceptons maintenant la solution de l'arbitrage. Donc, ils seront obligés dans quelques jours de rendre Badme à Érythrée.
Est-ce que l'Éthiopie aussi ne va pas gagner un peu avec son grand barrage sur le Nil?
Oui, mais ça n'a pas d'impact sur Érythrée. Mais ils peuvent travailler ensemble pour coopérer avec l'Égypte. C'est un grand danger pour l'Égypte s'ils perdent de l'eau, parce que l'eau du Nil, c'est la vie pour l'Égypte. Donc, il faut trouver des solutions et Érythrée a des bonnes idées là-dessus.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, joint ici à Washington. Et pour terminer, la Coupe du monde de football 2018 en Russie. Ce soir, la première demi-finale France-Belgique commence à 18h, temps universel. Ce sera l'affrontement des frères ennemis. Car plus que de simples voisins, ce sont des amis de 20 ans et des partenaires en club qui s'affronteront. Thierry Henry, par exemple, affrontera son ancien capitaine Didier Deschamps. Ce sera un affrontement chargé d'émotions. Mais ce soir à Saint-Pétersbourg, c'est surtout une place en finale au Mondial 2018 qui est en jeu. Écoutons l'entraîneur français Didier Deschamps.
Ben eux, ils nous connaissent, on les connaît. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de mon équipe qui ont des partenaires en face, en club. Donc, ils se connaissent. C'est un avantage des deux côtés, ils peuvent s'apprécier, ils peuvent même avoir une bonne relation ensemble, mais l'espace du match, le temps qui durera, évidemment, chacun de son côté fera en sorte que, et surtout d'une autre, de pouvoir prendre l'opportunité qui est devant nous de pouvoir accéder à cette finale de Coupe du Monde.